Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 3, chapitre 8, mort de Pontvert, octobre 1528 à janvier 1529. Pontvert fourrage Bonivard. Il convoque la confrérie à Nyon. Insolence de Pontvert en traversant Genève. La conférence au château de Nyon. Résolution prise à Nyon par les gentilshommes. Pontvert veut prendre Genève par trahison. Il veut de nouveau traverser Genève. Son outrecuidance, Quolibet des Genevois. Lutte sur le pont du Rhône. Pontvert fuit. Dernière lutte et mort. Acte de la justice divine. Honneurs qui lui sont rendus. Les violences des gentilshommes redoublent. Entreprise courageuse de Lulin et de Vandel. Un Genevois crucifié par de mauvais plaisants. La nuit du jeudi saint. La journée des échelles. Chapuis, Gringalet et Levrat remplissaient de leurs plaintes tous les lieux où ils passaient et tous les dévots les regardaient comme des martyrs. Les chevaliers de la Cuillée, apprenant le sort dont les institutions monastiques étaient menacées dans Genève, résolurent de venger la religion et de faire tout le mal qu'ils pouvaient à cette bourgeoisie audacieuse. Pontvert avait déjà commencé la campagne par une petite scène de pillage qui n'a d'autre importance que de peindre les mœurs de l'époque. Voulant piller et voler les Genevois à leur barbe, il avait fait dire à ses tenanciers d'aiguiser leurs faux. L'un des premiers jours de juin, les paysans mettent la faux sur l'épaule, le seigneur se place à leur tête, ses hommes d'armes les entourent et tous se dirigent vers les prés des Genevois situés sur la rive gauche de l'Arve, à un quart d'heure seulement de la ville. Les faucheurs arrivés aiguisent leurs instruments, puis, du tranchant de leurs faux, ils font tomber l'herbe fraîche. Ils arrivent finalement dans un pré qui appartenait à Bonivard. Voler le prieur était chose exquise pour Pontvert. Cependant, les Genevois, ayant appris ce qui se passait, étaient accourus et avaient aperçu à côté des faucheurs une troupe dont les armes étincelaient aux rayons du soleil. Bonivard reconnut facilement le seigneur de Ternier. Les Huguenots pouvaient à peine se contenir. Le chef des chevaliers de la Cuillée, ayant recommandé à ses gens de ne pas laisser debout un brin d'herbe, s'approcha du pont d'Arve qui séparait les deux pays et, apostrophant les Genevois rassemblés sur la rive droite, il se mit à leur dire des outrages et à les défier. « Allons, courage !» leur disait-il. « Passez le pont ! Venez recueillir le foin que nous vous avons abattu !» Les Genevois chargent leurs armes et les deux bandes commencent à tirer l'une contre l'autre, à belles arquebuses. « Prenons-le au mot, passons le pont !» disaient quelques Huguenots. « Repoussons ces voleurs !» Déjà, en effet, quelques jeunes gens s'apprêtaient à traverser la rivière. Mais Bonivard ne trouvait pas que quelques chars de foin valussent la peine d'engager une bataille qui pourrait mal tourner pour Genève. « Je les en détournai, dit-il, et les ramenai à la ville. » Les Genevois, comprenant le danger dont la confrérie de la Cuillée les menaçait, se préparèrent à la résistance et sollicitèrent le recours de Berne et de Fribourg. Deux enseignes, c'est-à-dire 800 hommes, surtout du Gesnay, arrivèrent à Genève et furent logés chez les habitants, mais particulièrement dans les couvents et chez les gens d'église. Le duc, qui tenait fort à l'alliance des cantons, craignait d'en venir aux mains avec leurs hommes d'armes. Il permit que les denrées furent portées au marché de Genève et, une apparence de paix s'étant rétablie, les troupes alliées quittèrent la ville, c'était le 30 octobre 1528. Pontvert n'était pas d'une humeur si pacifique. L'un des derniers représentants de la société féodale, il voyait ses éléments près de se dissoudre et ses institutions sur le point de disparaître. Le pouvoir qui jadis avait passé des villes aux campagnes repassait maintenant des campagnes aux villes. Genève en particulier menaçait d'annuler tous les seigneurs des environs. Il y avait plus. L'Église, qui transmet les croyances d'une manière absolue sans que personne ait le droit de les examiner, l'Église était attaquée par la révolution religieuse qui commençait dans Genève. Pontvert entendait maintenir les choses anciennes et pour cela prendre et s'il le fallait détruire cette ville inquiétante. Il convoqua donc à Nyon le conseil général de la confrérie de la Cuillée, dont il était le prieur, afin d'arrêter de concert avec le duc les mesures nécessaires pour s'emparer de la ville. Le bailliage de Ternier, seigneurie de Pontvert, se trouvait à environ une lieue de Genève, entre les croupes verdoyantes du mont Salève et les rives riantes du Rhône. Il eût donc été facile à ce chef de passer le fleuve entre Bernay et Pernay et de se rendre ainsi sur la rive droite du lac. Mais il trouvait plus piquant et plus héroïque de traverser Genève. En vain lui représentait-on le danger auquel il s'exposait, car s'il était en tout cas prompt à provoquer les Genevois, ils étaient eux toujours prompts à lui répondre. Pontvert ne voulut rien entendre. Il y avait un arrêté en vertu duquel les gentilshommes savoyards avaient franc passage dans la ville et, munis de son épée, il ne craignait personne. On était en décembre. S'étant présenté au point du jour à la porte de la coraterie, Pontvert passa. Il traversa tranquillement la ville sur son coursier, regardant de droite et de gauche les boutiques encore fermées, et ne rencontra aucun huguenot. Arrivé à la porte de Suisse par laquelle il devait sortir, il la trouva fermée. Il appela le portier qui, à ce qu'il semble, n'était pas encore levé. Le cheval piaffait, le cavalier criait, le portier tardait. Il accourut enfin et baissa la chaîne. Pontvert, impatienté, lui donna un soufflet pour toute récompense et lui dit « Coquin, fait-on ainsi attendre les gentilshommes ?» Puis il ajouta avec de gros jurements « On n'aura bientôt plus besoin de toi. Il ne se passera guère de temps que nous n'abattions vos portes et les foulions aux pieds comme nous l'avons fait autrefois. » Puis il piqua son cheval et partit au galop. Le portier, irrité du soufflet qu'il avait reçu, fit son rapport et les Genevois, qui avaient les muscles irritables, en conçurent une grande colère. « Ce n'est pas assez, disait-il, que ces Savoyards nous fassent hors de nos murs toutes sortes d'outrages. Ils viennent encore nous braver jusque chez nous. Attendez, nous saurons bien le leur rendre et châtier cet insolent. » Le conseil, tout en cherchant à modérer le peuple, ordonna que l'on mît partout des sentinelles. Les gentilshommes de la contrée, qui avaient assisté à l'assemblée de Bursinel, s'étaient mis aussitôt à pratiquer leurs voisins et un grand nombre de seigneurs, animés contre Genève, avaient pris la cuillée comme au temps des croisades où on prenait la croix. Ainsi, la seconde conférence promettait-elle d'être plus nombreuse que la première. De tous côtés, du pays de Gex, du pays de Vaud et de la Savoie, les chevaliers arrivaient à Nyon, ville centrale au milieu de ces provinces où ils tenaient habituellement leur conseil de guerre. Gravissant la colline, ils montaient au château, des fenêtres duquel ils découvraient dans toute leur magnificence le lac, ses rives et les blanches Alpes de la Savoie. Ayant pris place dans la grande salle, ils tinrent conseil. Ces rudes gentilshommes, issus de ces chevaliers du Moyen-Âge, auxquels il suffisait de bâtir une tour sur un rocher pour passer leur vie à écraser le faible et dépouiller l'innocent, gardaient quelque chose de la nature de leurs aïeux. Pontvert, qui les présidait, n'eut pas de peine à les entraîner. La féodalité et le catholicisme même exerçaient sur lui une grande influence et donnaient à ses discours une énergie, une affection profonde à laquelle il était difficile de résister. Il montra au Seigneur que l'autorité du prince et celle du pape, l'ordre religieux et l'ordre monarchique, le trône et l'autel, étaient également menacés par une bourgeoisie audacieuse. Il signala ce qu'il y avait de monstrueux, avoir des gens de robe, des hommes de très petite naissance et de nul mérite, des boutiquiers même, prétendre remplacer l'évêque et le duc. Il faut, disait-il, se hâter de disperser et de détruire ces semences de rébellion où vous les verrez au loin se répandre. Les chevaliers du château de Nyon furent unanimes. Le droit de résistance avait été le caractère du régime féodal. Jamais l'exercice de ce droit n'avait été plus nécessaire. Un seigneur l'exerçait dans le Moyen-Âge contre notre seigneur, son voisin, mais qu'était-ce que ses adversaires isolés en comparaison de cet ennemi universel, invisible, qui menaçait de toutes parts la société ancienne et qui, pour être plus sûr de triompher, inaugurait une nouvelle religion. Dans la vallée du Léman, Genève était le château fort de ce nouveau et terrible adversaire. « À bas Genève, vive Rome et la Savoie !» tel était le cri qui sortait de tous les cœurs. On convint que tous les gentilshommes se trouveraient en un certain lieu, un certain jour, tous armés à blanc avec leurs bandes afin de s'emparer de la ville et de mettre fin à ses libertés. Pontvert, joyeux de voir le succès de son appel, se tut et parut pendant quelque temps plongé dans une méditation profonde. Il avait l'esprit délié, ne craignait pas de recourir à la ruse et espérait qu'un assaut ne serait pas nécessaire. Il avait dans le plus grand secret gagné des amis qui habitaient une maison située à la coraterie, dont une porte de derrière donnait hors de la ville. Il paraît que cette maison appartenait à l'hôpital du pont du Rhône, situé entre ce pont et la Monnaie et placé sous le patronage des chanoines de la cathédrale. On se leva. Pontvert était particulièrement lié avec l'un des chevaliers les plus vaillants de l'assemblée, le sieur de Beaufort, commandant de Chillon. Il le prit à part. Nous avons une porte à Genève, à notre commandement, lui dit-il à voix basse et en lui recommandant le secret. Nul ne le sait, mais n'ayez crainte, je me charge de vous faire tous entrer. Pontvert entra, en effet, dit quelque temps après Bonivard, qui a pris cette parole, il entra, mais il ne sortit pas. Les chevaliers remontèrent à cheval et chacun d'eux reprit le chemin de son château pour se préparer à la grande entreprise. Pontvert fit de même, mais toujours hardi et se faisant un jeu de braver les bourgeois de Genève, il résolut de traverser de nouveau la ville. Ses amis lui représentèrent que les Genevois étaient maintenant sur leur garde, qu'ils les avaient offensés quelques jours auparavant, que s'il faisait une telle imprudence, il était un homme mort, que sa vie était nécessaire à l'entreprise. Tout fut inutile. Son heure était venue, dit le chroniqueur de Saint-Victor, et il plaisait à Dieu ainsi. « N'ayez crainte, répondit à ses frères d'armes le hardi capitaine. Je passerai de nuit et je m'envelopperai tellement dans mon manteau que nul ne me reconnaîtra. D'ailleurs, si l'on m'attaque, j'ai mon épée. » Un de ses amis, le sire de Simon, résolut de l'accompagner et quelques serviteurs armés le suivirent. Les chevaliers restaient en arrière, le regardaient galopant vers Genève et se demandaient avec inquiétude ce qui allait arriver. Pontvert, modérant le pas de son cheval, réfléchit à l'œuvre qu'il allait entreprendre. Il trouvait sa tâche digne du nom qu'il portait et de la mémoire de ses ancêtres. En prêtant son épée au duc de Savoie et au pape, il ferait triompher à Genève le pouvoir absolu dans l'État et le pouvoir absolu dans l'Église. Il renverserait du même coup dans cette ville remuante l'indépendance et la réformation. Enfin, il arriva devant Genève. C'était le samedi 2 janvier 1529, entre 4 et 5 heures du soir. Il était nuit close. Le chevalier mit le nez dans son manteau, se présenta à la porte des Paquis avec son escorte et passa. Il entra dans les rues. Le commandant d'une armée qui se proposait de prendre et détruire Genève traversait comme un voyageur ordinaire la ville qu'il allait entourer de ses bandes, assiégée, peut-être brûlée. Une audace aussi effrontée ne s'est peut-être jamais vue dans les temps modernes. À peine cependant fut-il dans la ville qu'il ne put plus se contenir. Son orgueil, sa colère l'emportèrent sur sa sagesse. Il laissa toute précaution, il secoua son manteau et tira son épée, usant de menaces et outrages par fierté et outrecuidance. Il alla même plus loin. Les rues de Genève, la vue de ces huguenots délestés qu'il apercevait allant en çà et là, le firent bouillonner de colère et frappant à la tête de son épée un citoyen qu'il rencontra, il s'écria avec un gros jurement « Il nous en faut tuer de ces traîtres !» Le citoyen attaqué se retourne, d'autres accourent. C'était dans la rue de Coutances qui a vu dès lors bien d'autres batailles et jusque dans les temps les plus modernes. Les huguenots entourent les cavaliers. Ils les reconnaissent, ils crient « Voici Pontvert ! Voici Pontvert !» La foule augmente et se rassemble sur le pont du Rhône que le chef des chevaliers de Lacuyer devait traverser. Depuis quelques jours, on ne s'entretenait à Genève que de la conférence à Nyon. On se disait que les gentilshommes de Lacuyer méditaient de nouvelles attaques, qu'ils allaient de réchef, piller, tuer, et que cette fois ils entreprendraient de porter le fer et le feu dans Genève même. L'irritation était excessive parmi le peuple. Quelques citoyens se trouvant ensemble sur la place publique ou dans leur maison parlaient des gentilshommes réunis à Nyon et les quolibets pleuvaient de toutes parts. « Les gentilshommes, disait un huguenot, dites, les gens pillent hommes, reprenait un second. Les gens tuent hommes, disait un troisième. Et malgré la gravité de l'affaire, on riait. Tout à coup, voilà devant eux, dans leur ville même, le chef de l'entreprise, celui qui ne cesse de les pourchasser. Il a tiré son épée et frappé l'un des citoyens. Ceux-ci dégainent à leur tour et au moment où le hardi chevalier, ayant traversé le faubourg de Saint-Gervais, entre sur le pont du Rhône, il l'entoure et l'un d'eux lui porte un coup à la figure. L'homme de la féodalité est aux prises presque seul avec les hommes de la bourgeoisie. Le pouvoir ancien et le pouvoir nouveau luttent sur le pont du Rhône. Et tandis que le fleuve bleu coule au-dessous comme à l'ordinaire, que les eaux anciennes vont se perdre dans la mer et que les eaux nouvelles arrivent, détachées des glaciers alpestres par les rayons du soleil, il y a sur le pont d'autres choses anciennes qui passent et d'autres choses nouvelles qui apparaissent. Au milieu des coups d'épée, des cliquetis des armes, des cris d'indignation des citoyens et des malédictions du gentilhomme, une grande transmutation s'opère, la société passe à l'ordre libre et abandonne l'ordre féodal. Le sire de Pontvert, voyant que le nombre de ses ennemis augmente, pique son cheval, le lance à travers la foule et arrive à la porte de la coraterie par laquelle il voulait sortir et qui conduisait au couvent des frères prêcheurs. Mais les jeunes voix avaient pris les devants. Oh malheur, la porte est fermée. Pontvert, en cette extrémité, ne se trouble pas. C'était tout près de là que se trouvait cette maison dépendante de l'hôpital, dont une porte de derrière donnait hors de la ville. Et par laquelle le chevalier se proposait de faire entrer de nuit les Savoyards. Il avait, au moyen de son cheval, gagné une petite avance sur ceux qui le poursuivaient. Il ne perd pas un moment, il se retourne et arrive devant la fameuse maison. Il y avait des degrés qu'il fallait monter pour y parvenir. Déjà, les Genevois arrivaient en foule, poussant des cris « Pontvert ! Pontvert !» Celui-ci fait face à l'ennemi, et ne quittant pas son vaillant coursier, il monte les degrés à contremont, c'est-à-dire à rebours, brandissant son épée contre ceux qu'il poursuivent. En ce moment, le syndic ami Girard arrive. Il trouve M. de Simon et les autres cavaliers qui accompagnaient le chef entourés de toutes parts. Le syndic supplie qu'on ne leur fasse aucun mal. En effet, ces chevaliers rendent leurs armes et on se contente de les mettre en sûreté. Pontvert, arrivé sur le palier, met pied à terre, et espérant toujours se sauver par la fameuse porte, il se jette précipitamment dans la maison. Sa figure est ensanglantée car, dit un témoin, il avait une coustelade sur le nez. Ses regards sont égarés, il entend sur ses talons les pas des Huguenots. N'a-t-il pas le temps d'atteindre la porte? Ou la trouve-t-il fermée? Nous l'ignorons. Quoi qu'il en soit, voyant qu'il ne peut s'échapper, il perd, semble-t-il, la tête. S'il se fût encore possédé lui-même, il eût sans doute affronté tous ses ennemis et vendu chèrement sa vie. Mais pour la première fois, il prend peur. Il entre brusquement dans une des chambres de la maison, il se jette à plat ventre et se cache précipitamment sous un lit. Un enfant n'eût pas fait autrement. Quel refuge pour le plus vaillant chevalier que les Alpes et le Jura eussent vu peut-être depuis des siècles. Dans ce moment, les Genevois qui le poursuivent franchissent le seuil de la maison. Ils la parcourent, ils entrent dans la chambre où s'est caché celui qui voulait avaler Genève comme une cuillerée de riz. À leur tête est ami Bandière, l'un des Huguenots qui avait dû se réfugier à Berne en même temps que Hugues et les principaux du parti, celui dont le père et les enfants avaient, on se le rappelle, comparu devant le conseil en 1526 quand il s'agissait de défendre les Huguenots réfugiés en Suisse. Ami Bandière, homme droit, enthousiaste de la liberté, décidé, impétueux, aperçoit le lit. Il pense que le fier gentilhomme pourrait bien être caché dessous. « À belles et pénues, dit Bonivard, on fourgonna dessous. » Et le malheureux qui y était caché reçut un coup d'estoc. C'était trop. Le sire de Pontvert se réveille. Homme vif et puissant, il sort de sa cachette en furie. Il se lève, de ses bras vigoureux, il saisit Bandière, le jette sur le lit et lui donne un coup de poignard à la cuisse. Alors les cris redoublent. S'il s'était rendu, on ne lui eût fait aucun mal. Mais les amis de Bandière, excités par le sang de leur frère, veulent le venger. Ils se précipitent sur Pontvert. Seul au milieu de la chambre, cet homme athlétique les reçoit avec courage. Il brandit son glaive à droite et à gauche. Il frappe de la pointe et du tranchant. Mais un bourgeois que la colère enflamme fond sur lui à beaucoup d'épées et le capitaine général des gentilshommes de la Cuillée tombe mort. Dans ce moment, le syndic, ami Girard, entre en s'écriant « Arrêtez, arrêtez !» Mais il était trop tard. Ainsi mourut François de Ternier, seigneur de Pontvert, dont les ancêtres avaient toujours été ennemis de Genève et qui lui-même en avait été le pire, dit un de ses contemporains. Il tomba martyr de la féodalité, dirent les uns, victime de son insolence, dirent les autres. Sa seule pensée avait été de ruiner Genève, de disperser ses habitants, d'abattre ses murs, et maintenant il était étendu mort à quelques pas du lieu où, en 1519, il se trouvait à la tête de ses hommes d'armes pour assister à l'assassinat de Berthelier et à la place même par laquelle il avait comploté d'entrer pour ruiner la ville par le feu et par le fer. « Acte mémorable de la justice divine », disaient quelques jeunes voix, « délivrance éclatante pour Genève, leçon terrible pour ses ennemis ». Il y a une grande différence qu'il faut bien remarquer entre les martyrs de la liberté et du droit et ceux de la féodalité et de la papauté. Le pouvoir arbitraire saisissait perfidement les plus grands citoyens, les Berthelliers, les Lévriers, au milieu d'une vie inoffensive et les faisait périr par la main vile du bourreau après un prétendu jugement qui n'était qu'une abominable perfidie. Mais c'était provoqué par les champions de la féodalité et à leur corps défendant que les hommes de la liberté frappaient leurs adversaires. Pontvert mourait dans un combat où il avait le premier tiré l'épée. Les Genevois voulurent rendre à leur ennemi toutes sortes d'honneurs. Le conseil ordonna qu'il fût enseveli avec les rites accoutumés par les franciscains dans une chapelle du couvent de Rives qui avait été fondée par sa famille et où quelques-uns de ses ancêtres avaient été déposés. Cette cérémonie ayant eu lieu selon les rites du culte romain, on informa sur cette mort tragique pour en faire justice s'il y avait lieu. Tous les gens de sens rassis étaient à Genève dans une grande affliction. « Ah, disait-il, quel dommage qu'il n'ait pas voulu vivre en paix, car c'était un vertueux chevalier, excepté qu'il était si querelleux. Il eût mieux valu le faire prisonnier, c'eût été le moyen d'obtenir de ses confrères un appointement perpétuel. » La justice trouva sur Pontvert des lettres qui se rapportaient au complot tramé contre Genève et où il était donné ordre aux gentilshommes de la Cuillée de se réunir tous contre cette ville, armée à blanc. On reconnut qu'il avait été le chef des bandes qui pillaient et tuaient sans merci les citoyens et les habitants de la campagne, qu'il avait été le provocateur ayant le premier blessé Bandière. La justice conclut donc qu'il n'y avait pas lieu à procédure. Le sire de Simon et les autres compagnons du fameux capitaine furent menés à la frontière de Savoie sans qu'il leur fût fait aucun mal. Il semblait que le chef de la Ligue contre Genève étant tombé, elle en serait affaiblie, mais au contraire, la mort de Pontvert redoubla la rage des confrères de la Cuillée. Les cris et les violences augmentèrent autour de la ville et dès le lendemain, dimanche 3 janvier, les gentilshommes voulant venger leur chef tenaient par tous les champs. « Nous tuerons tous les jeunes voix que nous rencontrerons », disaient-ils. En effet, ils se ruaient sur le premier qu'ils trouvaient, faisant violence et tuerie. On eût dit que l'esprit de Pontvert revenait et poussait ses anciens collègues à faire à ses mânes de nombreux holocaustes. On s'attendait à un assaut prochain. L'alarme se répandit dans Genève, le conseil s'assembla. La mort de François de Ternier, dit un membre, a jeté de l'huile sur le feu au lieu de l'éteindre. Seul, nous ne pouvons résister à l'attaque de la Savoie et des gentilshommes. Hâtons-nous de prévenir Berne et Fribourg. Impossible, dit un autre conseiller. Tous les gentilshommes du pays de Vaud sont en armes. On ne peut le traverser. Nos députés seraient arrêtés à Versoix, à Copé, à Nyon, à Rolles, et quiconque sera pris payera de sa tête la mort de l'illustre chef. Mais un peuple libre trouve toujours des citoyens prêts à se sacrifier. Deux hommes se levèrent. C'étaient deux des plus courageux huguenots, Jean Lulin et Robert Vandel. « Nous irons, » dirent-ils. Ils embrassent les leurs, se jettent dans un bateau, espérant arriver par le lac à des lieux où ils pouvaient aborder sans crainte, mais à peine avaient-ils pris le large qu'ils furent reconnus et poursuivis par des embarcations ennemies, bien armées et bien montées. Les deux jeunes voix les ayant aperçus comprirent le danger et saisissant les avirons de rechange, ils aidèrent les bateliers de leurs bras vigoureux et se sauvèrent à force de rames. Ils gagnaient toujours quelque chose sur les barques des Savoyards. Ils passaient sans être arrêtés en vue des divers ports occupés par leurs ennemis. Et enfin, ils abordèrent à Ouchy, inondés de sueur. Les gens de Lausanne, bien disposés pour les Genevois, leur prêtèrent secours. Ils se rendirent à Fribourg, par subtils moyens, déguisés probablement, et racontèrent à leurs anciens amis les périls croissants auxquels la ville était exposée, surtout depuis la mort de Pontvert. Celui-ci était alors remplacé par le seigneur de Viry, dont le château se trouvait, comme celui de Pontvert, entre le mont Salève et le lac, entre Chancy et les Luisées, et dont la famille avait toujours fourni à la Savoie de fanatiques adhérents. Viry était furieux de ce que Lulin et Vandel lui avaient échappé. Aussi, un jour après, les domestiques de ces deux Genevois, qui avaient charge de conduire leurs chevaux à leur maître à Lausanne, ayant passé par Copé, ils y furent jetés en prison par ses ordres. Ils ne s'en tenaient pas là. Les gentilshommes donnaient aux jeunes voix qu'ils rencontraient des coups de poignard, des coups de hache, aux reins, aux épaules et ailleurs, et plusieurs en mouraient. « Tout le pays de Monseigneur de Savoie est en armes, » disait-on à Genève, au commencement de mars 1529, « et nul ne peut sortir de la cité sans de grands périls. » Les ducaux, voulant braver de toute manière les jeunes voix, résolurent de leur envoyer un message non écrit mais vivant qui leur apprendrait le sort qui les attendait. En effet, le 14 mars, les Genevois qui sortaient de Notre-Dame de Grâce virent avancer sur le pont d'Arves un étrange personnage. Il avait derrière lui une traverse en bois qui s'élevait verticalement des pieds jusqu'au-dessus de la tête et contre laquelle il était lié. Puis une seconde traverse, mais horizontale, placée à la hauteur des épaules et à laquelle ses bras étendus étaient attachés. Les gentilshommes avaient trouvé amusant de crucifier un Genevois, toutefois sans lui faire grand mal et en lui laissant les pieds libres, de manière à ce qu'il pût retourner chez lui, ainsi ajusté. « Qu'est-ce que cela ? » dirent les gens arrêtés devant le pont. Ils crurent reconnaître un homme de la ville. Ils l'ont mis en croix, à tout bâton, devant et derrière. L'homme passa l'arve, s'approcha de ses concitoyens et leur raconta son histoire. « J'étais allé au village de Troinex pour affaire. Les ennemis m'ont pris, arrangé de cette façon, et contraint à revenir à Genève dans cet accoutrement. » Les jeunes voix ne savaient s'ils devaient rire ou se fâcher. Ils délivrèrent leurs combourgeois crucifiés et tous rentrèrent ensemble à la ville. Ceci n'était qu'un petit amusement des plus jeunes d'entre les gentilshommes. Le sire de Viry et ses confrères avaient des pensées plus sérieuses. L'attaque contre Genève, résolue dans le château de Nyon, devait être mise à exécution. Les seigneurs sortirent avec leurs hommes d'armes de tous les châteaux de la Grande Vallée et, le 24 mars, quelques paysans des bords de l'Arve vinrent dire au syndic qu'il se faisait grand amas de gentilshommes et de soldats à Gaillard, que ces hommes d'armes voulaient la nuit prochaine secrètement échieler la ville et qu'il y avait grande garde sur tous les chemins pour retenir tous ceux qui sortaient de Genève. Toute la garnison consistait alors en 50 compagnons faisant un guet tournoyant, dit Bonivard, c'est-à-dire faisant la garde à leur tour. Comment résister avec si peu de monde? Toutefois, deux puissances gardaient les murailles, l'énergie des citoyens et la providence de Dieu. La nuit du jeudi saint, 25 mars, à minuit, les chevaliers de la Cuillée, environ 4000 hommes des troupes savoyardes et les mamelouks fugitifs, s'avancèrent le plus secrètement possible pour prendre Genève par surprise. Les Genevois, accoutumés à de fausses alarmes, n'avaient pas fait grande attention à l'avis qui leur avait été donné. En tête de la troupe qui voulait donner l'assaut, se trouvait un certain nombre d'hommes portant de grandes échelles, fabriquées à Chillon. Les gendarmes qui les suivaient avaient sur leurs habits des chemises blanches afin de pouvoir se reconnaître dans les ténèbres. Ils avaient même envoyé à leurs amis de Genève des marques que ceux-ci devaient placer au bout de leurs piques afin que les assaillants les reconnussent dans la mêlée. 2 heures de la nuit ayant sonné dans la ville, quelques Savoyards arrivèrent devant les murailles. Personne dans Genève n'était sur ses gardes. Le silence était profond. La nuit obscure, tout promettait un succès complet. Cependant, le corps d'armée s'était arrêté à un quart de lieue de la ville et il hésitait à donner l'assaut. Pontvert n'était plus là. Viry n'avait point hérité de son influence. Au moment de l'exécution, un esprit d'épouvante saisit ses Savoyards à ce que dit un chroniqueur. Dieu leur ôta le courage, en sorte qu'ils ne surent onc approcher. « Nous ne sommes point assez forts, disait l'un, pour parfaire notre entreprise. Si nous échouons, disait l'autre, messieurs des ligues ne nous manqueront pas. » En conséquence, ils se retirèrent et dirent pour cacher leur honte que le duc ou l'évêque leur avait défendu d'avancer. Le duc, influencé par les cantons, n'aurait-il pas en effet donné au dernier moment l'ordre de la retraite? Cela seul, semble-t-il, explique ce mouvement rétrograde. Quoi qu'il en soit, les Genevois attribuèrent leur délivrance à une cause plus élevée. Ils écrivirent dans les registres du conseil ces simples mots que nous transcrivons. Les gentils avaient entrepris d'attaquer cette ville, laquelle Dieu a préservée jusqu'à présent. On appela le 25 mars la journée des échelles. C'était en effet à fabriquer des échelles et à les apporter que s'était borné tout le combat.